Pressé Cuir, épisode sur l'actualité au 21 décembre 2025, avant-dernier épisode de cette année. En ce qui concerne l'actualité pour les autres, ça continue sur le rythme standard jusqu'à la fin d'année, puis après revenir à un rythme un peu moins soutenu, disons. Shameless Plug, 25-26 février, Sécur 26, 14 au 17 avril, BotConf, 28-29 avril, Cyberconférence de Cyberico, 9 au 17 mai, le NordSec, toutes les formations. Ces informations commencent à s'afficher en ligne progressivement. Et 3 au 5 juin, le Styx en France, en espérant ne pas le manquer, et je le répète à chaque fois pour me l'imprimer correctement dans la tête. Premier segment sur l'intelligence artificielle. C'est facile d'empoisonner un modèle. Des nouvelles études l'ont démontré que ça prend vraiment pas beaucoup de données. Et on le voit dans la nature où les malveillants ont commencé à injecter des mauvaises informations dans différents modèles, d'où pour tromper les gens, les amener sur des mauvais sites ou des mauvaises informations. Donc, c'est déjà commencé. Fait que c'est une petite guerre qui se poursuit. C'est un peu le problème de ces technologies-là. C'est pas tout à fait fiable, si on veut. La surveillance par la Chine à l'aide de l'AI continue à progresser. C'est un outil qui est très, très en vogue de leur côté. Et ils mettent beaucoup d'énergie sur ce genre de choses-là. Ça se retrouve de plus en plus à travers des objets qui vont à travers le monde. Donc, ce qui peut vous affecter potentiellement, donc être vigilant. L'ALM accélère les opérations des rançons judiciaires ou des groupes de ransomware. C'est pas une très grande surprise. Ça revient beaucoup dans les nouvelles que je lis beaucoup régulièrement, parce que ça s'attrape souvent. On en parle de moins en moins, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment juste le fait de faciliter le travail, mécaniser un peu ce que les entreprises devraient faire. Et c'est limité de faire d'ailleurs avec le LLM, c'est d'aider à progresser, mais pas de chercher à révolutionner le monde. Donc, bref, eux ont compris. Microsoft confirme qu'ils vont demander le consentement dans Windows 11 pour l'usage de l'agent AI. Ça crée beaucoup de mécontents. C'est encore un énorme disconnect. Puis c'est pas le seul que j'ai vu cette semaine, mais c'est le seul que j'aborde dans les nouvelles sur le fait qu'il y a encore une déconnexion très grande entre les utilisateurs et les grands penseurs de ces grandes compagnies-là, dont ici dans le cas Microsoft, mais on l'a aussi chez OpenAI et Anthropic, par exemple, où ces gens-là sont convaincus qu'ils vont révolutionner le monde quand, dans les faits, c'est peut-être pas tant une révolution que ça. Puis il y a quand même beaucoup de dangers associés à l'utilisation du AI. Donc, d'être très, très prudent, puis c'est une bonne chose que le permettent, mais encore là, est-ce qu'ils vont se rétracter longtemps? Ça reste à voir. La nouvelle suivante, l'usage, en tout cas, l'existence d'un script pour réussir à désactiver tout ce qui est IA dans Windows 11. Pour ceux qui ne sont pas capables de supporter autant, Microsoft dit que va limiter son usage autant que si on peut le désactiver, c'est encore mieux. Donc, un script qui le permet, au moins dans l'itération actuelle de Windows 11. Au niveau de vue cybersécurité-ish, la nouvelle est un peu, ça exagère un peu de ce côté-là, c'est fait de la cybersécurité, mais comme beaucoup de nouvelles d'ailleurs, les titres sont très, un peu too much, probablement écrit par du AI, fait que ça aide. Il semblerait que le modèle Claude est le plus résistant aux attaques par injection, par différents éléments. Et selon la théorie de l'article, ce serait que l'alignement des principes, on pourrait dire éthiques, se fait très rapidement dans le modèle plutôt que tardivement dans les autres modèles. Donc, ça, c'est l'hypothèse qui est là. Donc, encore là, ça remet le fait que l'entraînement est très important sur le outcome qu'on a de ces différents modèles-là. Donc, bien, j'ai un épisode spécifique enregistré qui va sortir début de l'année prochaine sur ce genre de choses-là, donc de voir comment cet entraînement-là, mais ça va être très intéressant de partager ça. Le code écrit par du AI contient plus de bugs que du code écrit par les humains. Et encore, c'est un peu dans le même mouvement. Là, c'est des statistiques qui ont été sorties par une compagnie dite réputée. Et ça met en évidence qu'il faut surveiller énormément. Puis ça revient toujours au fait que ça demande peut-être plus de supervision. Et ultimement, certaines compagnies de AI le mettent. Ben, ils vont mettre un agent pour corriger. Donc, on se fait un agent qui écrit du mauvais code, un agent qui va écrire, va réviser le code pour le corriger. Fait que c'est une espèce de course étrange quand on pourrait écrire du bon code par des humains d'un premier coup. Ça serait probablement plus simple. En tout cas, bref, pour regarder qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Section suivante, privacy. C'est très intéressant ce qu'il y a cette semaine. article intéressant qui sépare qui dit essentiellement que ce qu'on qualifie sur privacy ou protection des renseignements personnels, c'est plus un élément marketing que la vraie protection, qui serait plus l'anonymat dans ce cas-ci. Donc, l'anonymat protège de façon définitive l'information, puisque cette information-là n'est pas stockée. Contrairement à la protection des renseignements personnels, et ça le dit bien en français, ça le dit moins bien en anglais d'ailleurs, que c'est une protection que les compagnies s'engagent ou les gouvernements s'engagent à protéger nos informations correctement. Quand dans l'autre, l'anonymat, il n'y a pas d'information à protéger puisque l'information n'est pas collectée. Donc, il faut faire bien attention entre les deux notions. Puis ça, c'est intéressant qu'en français, le vocable soit plus parlant de ce côté-là. Mais ce que je vois des praticiens, c'est pas plus parlant dans la pratique. Là. Les gens ne font pas plus attention. Et de fait, l'usage de ces services-là pose certaines complications du fait qu'on n'est pas capable de récupérer un compte qu'on a perdu ou d'autres éléments comme ça. C'est un exemple, par exemple, chez Proton, si on perd notre compte, ben, c'est foutu parce que Proton n'est pas capable de le récupérer d'aucune façon. En tout cas, du moins, je suis capable du contraire, mais pas capable de récupérer le contenu parce que la façon que c'est chiffré, fait que soit on ne détient pas, soit on chiffre par des clés qu'on ne possède pas. Donc, à ce moment-là, c'est une façon de protéger la dite information de façon plus robuste et de vraiment vendre la bonne idée. Donc, on va voir à quel point nos informations sont protégées. Et dans ce côté de privacy, de protection des renseignements personnels, d'être vraiment vigilant. Et si on le voit dans d'autres nouvelles cette semaine, que la conservation d'informations personnelles cause des problèmes. D'importants problèmes, puis on est un peu soumis comme consommateur, comme citoyen, à ces erreurs-là. Et même les lois en place ne sont pas suffisantes pour protéger adéquatement. Donc, il y a comme un équilibre qu'il va falloir qu'on réfléchisse par rapport à ça. Chrome Edge Privacy, une extension pour protéger la vie privée. Finalement, justement, c'est l'ironique, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette section-là. Elle finit par aspirer toutes les requêtes qui sont envoyées aux différents AI. Donc, il faut être très, très, très prudent, surtout avec Chrome Edge pour les extensions, parce que ceux-ci ont des pouvoirs très, très grands. Ils sont capables de faire beaucoup de choses sur votre machine et sur votre navigation. Et les chiffrements qui normalement protègent la communication quand ils circulent sur le réseau n'est littéralement inefficace pour vous protéger contre ces extensions-là. Fait que assurez-vous que vous utilisez des extensions que vous avez confiance, qui viennent de sources réputées et pas juste un petit bidule qui a l'air très cute ou que votre madame préférée vous a dit d'installer parce que lui utilise ça puis c'est la meilleure chose au monde. Donc, soyez vigilants, surveillez ce qu'il y en est. La loi sur la surveillance au UK est pleine de trous, essentiellement ce que les agents de surveillance font. Surveillance du gouvernement. Ici, c'est l'essentiel, c'est qu'on ne peut pas se sortir du fait que les gouvernements ont besoin de surveiller pour différents besoins légitimes. Par ailleurs, il doit y avoir une certaine supervision qui est faite par les autorités civiles, notamment le Parlement, notamment le pouvoir exécutif, justement pour s'assurer que tout est bien aligné et qu'on respecte l'objectif, ça, qu'il n'y ait pas de dépassement. On le voit beaucoup plus aux États-Unis où ces comités-là questionnent souvent les différentes capacités de surveillance des agences américaines. Donc, c'est très important d'avoir une loi qui permet une supervision adéquate de l'usage de ces pouvoirs de surveillance qui sont quand même très, très vastes. Même si c'est nécessaire, la supervision quand même assure qu'il n'y a pas d'abus qui en est fait et qu'on reste dans les paramètres qui sont voulus par la population et l'exécutif à ce moment-là. La plus haute cour de la Pennsylvanie a autorisé essentiellement la police à récupérer les recherches chez Google en spécifiant que celles-ci ne sont pas protégées. Ça, c'est public. Donc, c'est un rappel que les données qu'on envoie notamment chez Google sont faciles d'accès pour la police. C'est pas une surprise. C'est peut-être un enjeu pour les gens qui ont un plus d'inquiétude sur l'invasion de la vie privée. Effectivement, dans une société de droit dans laquelle on a une certaine attente de protection et de pas être subir des recherches intempestives. On est protégé autant au niveau américain que canadien par des dispositions dans la Constitution qui nous empêche, bref, limite les capacités de fouilles intempestives par l'État. Donc, c'est un peu une atteinte à ce genre de choses-là, mais bref, c'est à réfléchir parce que la société de surveillance dans laquelle on est et dont les technologies sont des outils très puissants de surveillance, Cela, c'est des conséquences qui sont un peu normales face à où on s'en va, où il y a geofencing aussi sur les téléphones Android que Google peut retourner. Il y a beaucoup de choses, fait qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir là-dessus et à savoir où on veut aller avec ça comme société. Est-ce qu'on met des lois pour protéger davantage ou mieux encadrer l'obtention de ces informations-là selon des processus qui sont plus confortables pour la population. Souveraineté. Nutanix fait constamment pousser pour supporter différentes sources de virtualisation de cloud. C'est dans le fond une capacité que ça donne d'être souverain au sens où on est capable de gérer des clouds à différents endroits et abstraire la complexité de chacun des clouds et autant des data centers pour gérer ça dans une couche unique et uniforme. Donc, facilite la souveraineté et facilite l'usage de technologies diverses pour arriver à l'objectif de souveraineté notamment, mais pas exclusivement. Puis c'est un autre coup donné dans la table de VMware qui tranquillement perd clairement des plumes. C'est un peu dommage de voir un grand joueur comme ça, mais bon, il y a des choix d'acquisition qui font ça comme ça. L'article suivant, c'est un autre article sur une personne, dans ce cas-ci, c'est une juge d'origine canadienne qui a perdu toute capacité d'accès aux technologies puisqu'elle a été sanctionnée de son travail à la Cour pénale internationale. Donc, c'est un autre juge. Il y avait un juge français dans lequel il avait été largement discuté, mais cette juge-là aussi est affectée et parle de son histoire et à quel point ça peut devenir dissuasif pour les juges de pouvoir faire valoir le droit international quand que des pays peuvent autant influencer la vie des gens avec des sanctions et dans les activités de tous les jours. Donc, ça va changer un peu probablement la portée de ce que la dépendance qu'on devrait avoir par rapport aux Américains, c'est-à-dire de débrancher les différents réseaux de dépendance américaine. Ça s'est fait notamment avec la guerre en Ukraine. C'est en train de se faire dans d'autres circonstances. Donc, les actions posées amènent à une méfiance de plus en plus grande face aux technologies et compagnies américaines. Donc, c'est des conséquences de tout ce qui est en train de se passer. L'OTAN se bat pour un cloud souverain, la vitesse, ainsi de suite. C'est un peu étrange de parler de souveraineté au niveau de l'OTAN puisque c'est plusieurs pays. Mais l'article est très intéressant où on parle, puisque j'ai vu un peu en France aussi, à l'European Cyber Week ou avec l'amiral Coustillard, de cette capacité souveraine, donc d'être autonome et d'agir, et cette capacité de collaboration aussi, d'ouverture des protocoles, l'ouverture des canaux de communication. Donc, un peu l'équilibre entre les deux. Faut que l'article aborde un peu ça dans cette direction-là. Dernier article de cette section-là, Airbus tente de migrer toutes ses charges en Europe, notamment dû aux différents éléments. De mon passage comme contractant chez Airbus, je n'ai pas eu accès à cette information-là, donc c'est aucune information privilégiée. Mais je trouve ça intéressant de voir une compagnie de multinationale comme Airbus de mettre de l'énergie pour rapatrier en Europe, notamment tout son savoir. Mais en même temps, une compagnie comme Airbus, c'est très compliqué puisque c'est international essentiellement. Ça se veut un peu partout. Ça a des centres de montage partout à travers le monde, plusieurs filiales, donc c'est un concept très, très flou dans ma tête de voir comment ils vont faire ça, mais du moins les applications critiques et centrales qui sont la maison mère vont justement se placer comme ça. Mais c'est un chemin, puis ça présente certaines complexités. Donc, c'est quelques beaux défis, puis je suis un peu envieux des personnes qui travaillent sur cette réflexion-là, parce que ça va être vraiment de très beaux défis à travailler. Section Red. Là, j'ai lu beaucoup d'affaires dans Medium, là, fait que j'ai eu comme une surinfluence de très bons articles ou d'articles de bons write-up qui nous remettent un peu avec les deux pieds sur terre. Premier article, c'est comment réussir à contourner la détection deepfake. Essentiellement, c'est comment de trouver le chemin pour que le système de détection arrive à ne pas, à croire que la personne est existante au bout de l'autre bout du vidéo dans ce cas-ci. Et donc, essentiellement, c'est de prendre une image des fakes selon certains paramètres, plus ajouter des vecteurs de mouvement qui font accroire à l'algorithme de détection. Donc, l'algorithme de détection est très faible sur le type de mouvement qui est fait. Puis, c'est pas des énormes pixels là, quand on voit dans le code qui est partagé qui est bougé, mais suffisamment pour que l'algorithme croit que la personne, elle est vraie. Elle est vraie que ce n'est pas juste une photo pour faire ça. Ensuite, comment contourner l'isolation, en tout cas les couches d'isolation dans un navigateur web, les antivirus. Et essentiellement, cette faille-là est démontrée sur le fait que c'est ce qu'on appelle le gateway ou le control plane qui est faible, c'est-à-dire que chaque sous-navigateur est isolé, c'est par ailleurs qu'ils doivent sortir par un gateway unique. Et c'est ce gateway-là qui se trouve être faible à ce moment-là. Donc, on fait reposer sur une couche spécifique le contrôle. Donc, à ce moment-là, ce contrôle-là est défaillant ou est plus faible et est plus facile à abuser dans ce contexte-là. L'article suivant, c'est des techniques pour trouver des informations cachées dans des points Git qui peuvent traîner sur Internet. Dans le fond, c'est du Google Dorg de chercher dans des requêtes comme ça qui ont été indexées et trouver plein d'informations dans des répertoires .git qui contiendraient des caches de mots de passe, d'informations sensibles et ainsi de suite. Donc, soyez très prudents à ce que vous exposez parce que Google aspire absolument tout. Puis ça, c'est un bel exemple de Google Dorg qui est justement bien puisé là-dedans. Quelqu'un s'est amusé à s'en prendre à l'application super sécure de Freedom Something, là, quelque chose qui était très rattaché au mouvement conservateur américain, et pour découvrir que c'était basé sur des protocoles faibles et essentiellement, pas tous, il y a quelques éléments quand même qui sont bien faits. Par ailleurs, c'est un peu dans le même esprit que T, où c'est des gens avec pas tant de connaissances que ça finalement qui se sont lancés à développer une application qui clame des choses qui sont peut-être démesurées par rapport au réel. Donc, la première itération de cette application-là stockait tout en clair dans une base de données Firebase, ce qui n'est plus le cas dans la nouvelle itération, mais il reste encore des éléments très importants au niveau de faille à l'intérieur de celle-ci. Donc, toujours d'être super méfiant quand il y a des énoncés de super sécuritaires ou de choses comme ça. Comme les mêmes choses de prudence pour les énoncés de super intelligence qu'on peut retrouver au niveau de toutes les AI, tout ce qui est rendu disponible jusque-là. Fait que bref, il y a beaucoup d'enflure marketing, dans le fond, qu'il faut être très, très prudent. Apple et Google ont déployé en urgence un correctif pour Chrome et Safari. Donc, c'est juste important de le faire. Et profitez-en du temps des fêtes pour justement protéger les nouvelles. Storm 0249 casse les processus de DR encore une fois, puis souvent dans les dernières fois j'en parlais parce que je me suis rappelé cette semaine j'avais une très belle série avec il y a eu celle avec Charles Hamilton, mais j'en avais fait un autre beaucoup plus longtemps avec Maxime sur lequel le fondateur de Lima Charlie qui justement on parle plus du pas nécessairement de l'évitement mais comment ça fonctionne essentiellement cette technologie-là et donc qui explique très bien pourquoi ça peut se faire contourner. Donc, je mettrai dans les show notes cette série-là que j'avais enregistrée il y a déjà quelques années, qui est encore très pertinente, mais bref, dans le lot de tout ce que j'ai. Deux petits articles sur des command control utilisés par DNS ou par ICMP, donc de tunneler dans ces protocoles existants. C'est pas sans rappeler un papier qui avait sorti par la gang du ACOS il y a très, 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 très longtemps, qui parlait justement de tunneler dans des requêtes DNS, des éléments comme ça. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est intéressant de voir un article là-dessus. Puis, un peu encore, on va reparler de Charles Hamilton, comme quoi ce qui est vu est de nouveau et renouveau, et les gens redécouvrent des affaires qui sont de plus vieux concepts. Bon, c'est particulièrement étrange, mais je trouve ça intéressant que ça refasse surface ces éléments-là, comme l'évasion de l'EDR aussi refait surface sur de plus vieilles techniques pour contourner ça. Article de ou recherche d'infoblocks relayé par Krebs sur le fait que les domaines qui sont parqués, donc essentiellement tous les domaines de type typo qui reprennent des domaines standards avec une erreur de frappe dedans pour justement intercepter tous les gens qui se trompent de place. Il y a un énorme usage de ces domaines-là pour soit infecter à travers des sites web, soit intercepter des courriels qui sont arrivés à une mauvaise destination et ainsi de suite. Donc, d'être très, très prudent dans ce qu'on peut faire de ce côté-là, parce que c'est utilisé. L'article ne fait pas référence à au groupe criminel en question, mais bref, ces éléments-là sont à tenir en compte et d'une très grande prudence. Singularity Linux Kernel Rootkit, j'ai pris la nouvelle juste parce que ça m'amuse. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de Rootkit, au sens où c'est des techniques qui s'utilisaient il y a très 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 longtemps, là, dans le temps des dinosaures et des pterodactyles. Et maintenant qu'on appelle ça de l'évasion d'ADA, mais c'est à l'époque c'était des rootkits qu'on utilisait pour cacher le fonctionnement du code malicieux, de tout outil de surveillance qu'il y avait là. L'article fait référence à d'évasion d'EDR et de différents outils comme ça. Quand c'est très, très vieux comme approche, ça fait très longtemps que c'est utilisé et j'ai l'impression que ça a été oublié avec le temps, comme beaucoup de choses. Comme je faisais référence au tunneling des requêtes DNS pour faire du command and control, mais ça aussi, ça en est. Comme quoi, tout revient. Fait que c'est pas une mauvaise chose que tout revient, mais en même temps, un rappel que faudrait peut-être donc qu'on lise l'histoire un peu plus. Première vulnérabilité kernel Linux depuis qu'on commence à faire la conversion en Rust. Je trouvais intéressant de l'amener, pas parce que une vulnérabilité, c'est assez banal en soi. C'est pas très significatif. Par ailleurs, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que les gens oublient le fait que Rust est un langage qui est très robuste, qui évite un certain nombre de problèmes qu'on a avec le C. Par ailleurs, il y a des conditions que le Rust ne peut pas protéger, qu'il faut quand même être prudent dans le développement. Et dans ce cas-ci, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais en même temps, c'est pas d'une très grande gravité. Ça a été trouvé et corrigé en l'occurrence. Nouvelle campagne de password spray, de tentative d'attaque sur des VPN, autant Cisco que Palo Alto, puis probablement de d'autres compagnies également. L'essentiel là-dedans, puis ça, c'est juste faire un rappel que tout ce qui est exposé doit avoir un mot de passe robuste, incluant vos VPN, puisqu'il y a cette campagne-là, ça a essentiellement trouvé des mots de passe faibles. Donc, si vous avez un mot de passe force plus deux facteurs, vous êtes protégé. Mais c'est essentiel de se rappeler que c'est essentiel, ce genre de choses-là. Nouvelle recherche, on découvre une nouvelle alliance entre Clean, Dragon Force et Logbit. C'est pas sans rappeler 2019 pour trahir mon vieux temps. Que ce genre d'alliance-là n'est pas exceptionnel. En 2019, il y avait Emotet, QuickBot et Ryuk qui étaient un assemblage à l'époque qui se faisait aussi. Donc, ces différents amalgames-là peuvent se passer, vont se repasser de nouveau. Donc, c'est intéressant de voir que c'est pas éteint, mais que il y a encore un peu de surprise pour les gens. Grande campagne de phishing sur les comptes M365. Vous parlez des VPN précédemment. Compte M305, donc être très prudent, c'est le temps des fêtes, les gens sont un peu plus festifs et ont tendance à être un peu plus négligents au niveau de leur cybersécurité, donc juste être un peu plus vigilant sur les courriels qu'on reçoit et ne pas tomber dans des pièges qui pourraient être, disons, malheureux. Dernière nouvelle, celle-là, je ne savais pas trop la classer, je l'ai mis là, mais bon, bref, ça aurait pu être ailleurs. Les 10 erreurs qui ont été faites dans l'upgrade des firewalls en Australie, amené à 2 morts au niveau des lignes 9-1. C'est essentiellement, il y a un certain nombre de processus qui étaient défaillants, dont la bascule de la ligne d'urgence vers des systèmes alternatifs, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, il y a un paquet d'éléments là-dedans qui ont été pointés comme de négligence très importante et c'est intéressant de voir que ce rapport-là soit rendu public. C'est très important. Je trouvais ça un peu, puis j'ai dit à quelques reprises que c'est un peu dommage qu'il n'y avait pas de conséquences ou de punitions associées à ce genre de choses-là, parce que si on veut ne pas avoir des comportements comme ça, il faut mettre des mesures en place pour favoriser les bonnes opérations et punir les mauvaises en ce cas-ci. Donc, s'il n'y a pas d'imputabilité, ben c'est plutôt rare que les gens vont faire attention. Dans ce cas-ci, il y a une certaine forme d'imputabilité qui est au rapport. Le rapport est sorti. Deux, semblerait qu'il y ait eu des mesures d'imputabilité ou de conséquences sur les gens qui ont été impliqués. Autant le fournisseur principal Optus que le sous-traitant qui est Nokia en l'occurrence, que les deux ont des responsabilités dans ce qui s'est passé. Donc, de voir que c'est pris en main, c'est une très bonne chose. Pas qu'il y ait eu erreur, mais au moins que ça soit mis des actions correctives. Mais j'ai l'impression que dans un mouvement plus large, les gens n'ont plus suffisamment d'inquiétude face à ce genre de choses, donc un peu plus négligents. que d'habitude pour, bref, ce type de choses-là, c'est à voir. Tu connais, oui. J'espère que ça va améliorer. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes de cette nature, autant en Australie qu'ailleurs dans le monde sur ce genre de choses-là. Section suivante, là, sur les bridges. Cette fois-ci, il y a deux brèches très importantes qui ont lieu, une en France, l'autre en Angleterre. La première, c'est le ministère de l'Intérieur en France, où semblerait au moins un jeune d'une vingtaine d'années a été arrêté depuis. Ça a évolué très rapidement, mais essentiellement est rentré dans les systèmes du ministère de l'Intérieur, a réussi à s'infiltrer dans différents canaux par une certaine forme de négligence en cyber qui aurait été corrigée depuis. Et donc, aurait réussi à faire fuiter des informations très sensibles. Et la seconde nouvelle, les affaires étrangères du UK auraient subi une brèche aussi, un peu dans la même perspective. Eux aussi ont des informations sensibles. Et pour faire un lien avec une nouvelle précédente, c'est que le fait de conserver beaucoup d'informations sensibles dans ces systèmes-là pendant trop longtemps mène justement à des problèmes de sécurité plus grands. Et je crois qu'on a oublié de faire le fond d'hygiène numérique et d'effacer ce qu'on n'a pas de besoin ou de stocker hors ligne ce qu'on n'a pas nécessairement de besoin pour réduire l'exposition. Tout en sachant que des brèches, il va toujours en avoir. Donc, dès lors, au moins de réduire le degré d'exposition des données sensibles, puis donner des citoyens ou donner des consommateurs, tout dépend dans le cas, dans quel contexte on se trouve. Dans ces deux cas-ci, c'est des agences gouvernementales, donc des données des citoyens qui ont été fuitées malheureusement dans ces contextes-là, donc de re-réfléchir à des stratégies de stockage. Et pour l'avoir vu dans d'autres organisations, pas exclusivement en Europe, au Canada et aux États-Unis, on en voit cette conservation d'informations un peu trop prolongée, notamment dans les courriels, devrait être pas puni, mais du moins sévèrement encadré pour éviter des problèmes de cette nature-là, d'exposer inutilement des données personnelles qui autrement auraient pu être protégées dans ce cas-ci. Fermons la porte sur les brèches, parce que c'est pas un type d'information qui m'intéresse beaucoup, au-delà du fait d'exposer le fait que de conserver une information nous expose à ce type de problème qui est plus grand que nature, que normal, ça devrait être une simple brèche, essentiellement. Et quand on parlait d'anonymat et de chiffrement bout en bout, et ainsi de suite, aussi, c'est d'autres mesures qui devraient être mises en place, justement, comme consommateur et comme citoyen, que j'aimerais ça que l'État et les compagnies avec qui je fais affaire déploient, pas juste du privacy, mais déploient vraiment des mesures de sécurité sérieuses qui aient à effacer ou à chiffrer de façon adéquate les informations, pour qu'on arrête de voir des fuites d'informations, parce que c'est vraiment juste terrible, toute cette négligence qu'on peut avoir et cette surconservation d'informations. Bref, section suivante, Information Warfare. Cette semaine, il y a beaucoup de nouvelles qui sont relatives au fait que les Russes, entre autres, et les Chinois sont mis en exposition sur le fait qu'ils attaquent beaucoup. Le Danemark blâme la Russie pour des attaques sur des systèmes de traitement d'eau. Les Coréens, les Nord-Coréens ont fait énormément d'argent avec la cybercriminalité. Eux, leur stratégie, c'est de s'attaquer à des gros poissons. Ils sont hyper spécialisés, donc super bons dans cette stratégie-là et de toute façon, de toute apparence, très, très efficace dans l'argent qu'ils reçoivent comme ça pour financer l'État qui ne produit rien finalement, essentiellement. Donc, c'est leur stratégie de financement l'aspect hostile de la Corée du Nord. La Russie s'est infiltrée dans les edge devices, dans les périphériques, sur les extrémités des réseaux, souvent les équipements télécoms. Donc, s'en sert comme pivot, s'en sert pour avancer, souvent par des négligences de configuration, plus que par des 0D, des unités. Donc, ils sont très souples et très dynamiques dans leur façon d'entrer. Donc, ils sont un peu partout. La Chine aussi s'est rentrée dans des réseaux européens, un peu sous le même style. Dans ce cas-ci, c'est Ink Dragon qui se cache dans des éléments dans des réseaux gouvernementaux européens. Le Venezuela accuse les États-Unis de faire des attaques cyber sur ses infrastructures de pétrolières. Donc, ça, c'est un élément intéressant. Puis tous ces éléments-là réunis montrent à quel point les choses ont changé de beaucoup depuis les dernières années. Maintenant, il y a des attaques. Maintenant, on s'en cache même plus. La plupart des États ne se cachent même plus du fait qu'ils utilisent des stratégies cyber pour déstabiliser leur adversaire. Donc, les États-Unis le font, la Russie et la Chine le font depuis longtemps. Donc, puis on n'est plus gêné aussi de le mentionner. Jusqu'à tout récemment, on se gardait une forme de gêne, puis j'en ai déjà parlé précédemment, sur le fait de pointer la Chine ou la Russie sur des attaques qui sont là. Dans ce cas-ci, il y a de moins en moins de gêne sur le fait de le faire. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais bref, il y a moins de gêne parce que les nouvelles sont très claires. Ce n'est plus des suppositions. Maintenant, c'est vraiment les États qui accusent. Notamment comme la première nouvelle que le Danemark pointait la Russie dans ce cas-ci. Dans un contexte où la Russie est en guerre, ben c'est pas très grand, une grande révélation non plus. Mais bon, il y a un changement de paradigme de ce côté-là. Il y a une attaque entre les satellites chinois et américains. Ici, c'est-à-dire que les satellites ont commencé à bouger et à se nuire mutuellement. C'est rendu un nouvel espace d'attaque. Au même titre qu'il attaquait l'espace aérien, mais là, c'est l'espace satellitaire qui est touché. Et que les satellites qui sont envoyés maintenant dans l'espace sont capables de manœuvrer davantage que ce qui était le cas avant, où on limitait la capacité de ces équipements-là parce que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, ils vont être capables de manœuvrer pour intercepter, pour créer du bruit ou créer d'autres situations problématiques au niveau des satellites adverses. Donc, la Chine et les États-Unis en font partie dans l'occurrence. L'Allemagne s'en est plein aussi. Donc, c'est une chose, je pense, qui va aller en croissance de ce côté-là. Donc, les changements du climat géopolitique est vraiment rendu dramatique. Tous ces outils-là laissent penser à chaque pays qui a une domination sur les autres. Donc, favorise l'escalade dans quel risque, ce qui n'est pas une très bonne chose, bien malheureusement, pour ce qui est devant nous. Et dernière nouvelle de cette section-là, c'est le Danemark encore. Comment on finit par le Danemark? Cette fois-là, c'est une loi sur l'interdiction d'usage des VPN. On est encore dans un contexte qui revient sur le fait que les jeunes veulent contourner les limitations locales, donc d'accès à des contenus nocifs, selon l'énoncé des choses. Puis encore là, je ne porte pas de jugement sur ce qui est décidé d'être censuré ou d'être bloqué par un pays. Dans bien des cas, c'est justifié. Dans d'autres, on pourrait questionner. Mais bref, en présupposant que c'est légitime pour justement limiter l'exposition des jeunes à des situations problématiques ou des informations ou des images problématiques, c'est un blocage local. Et là, c'est le fait que le Danemark veut bloquer. Si on en revient encore sur le fait, c'est détourner comment la technologie est faite. C'est aussi comment la collaboration interpays se fait. Comment cet environnement-là, Internet, se construit. Et probablement, ce qui s'en vient, c'est des blocages, un peu comme le très grand mur de Chine, le découpage de la Russie, que les différents points d'ancrage, d'entrée et sortie Internet des pays deviennent de plus en plus limités. Donc, soit le point de contrôle ultime ou le fait que les gens au Danemark ne pourront pas, ou en Russie, comme c'est le cas en Russie à l'heure actuelle ou en Chine, ne peuvent pas sortir du territoire, doivent passer par les services légitimes. Donc, on se trouve avec des gates qui vont être mis à la sortie de chaque pays, finalement. Donc, ça donne un pouvoir. Puis, il y avait des nouvelles sur le fait qu'il y a des interruptions Internet un peu à travers le monde, dans plusieurs pays qui sont exigés par certains pays. Donc, on est en train de pivoter vers un univers comme celui-là, de l'univers d'ultra-ouverture d'Internet à un univers de plus en plus contrôlé par l'État. Pour de bonnes et de moins bonnes raisons. Donc, c'est place à débat, mais c'est un changement de paradigme très, très important de ce qui s'en vient. Section bleue. Première nouvelle, c'est sur le fait que surveiller ce qui sort d'un serveur Linux, c'est la meilleure façon de détecter qu'un problème. Ça vaut pas juste pour le serveur Linux, ça vaut à peu près pour tout. Normalement, dans un contexte de zéro trust, tout ce qui sort et rentre d'une chaque machine devrait être contrôlé. On a juste pris l'habitude de contrôler ce qui rentre et pas de contrôler ce qui sort. En contrôlant ce qui sort, on vient de couper les jambes généralement à l'attaquant, puis c'est assez efficace pour l'avoir vu dans plusieurs environnements où les attaquants sont rentrés par peu importe la raison, mais on les attrape à la sortie parce que les gates de sortie étaient très, très fermés et très limités et ça faisait énormément de bruit quand on les voit essayer de sortir. Donc, le fait de sortir nous indiquait des choses qu'on n'avait pas attrapées ou on n'avait pas réussi à intercepter à l'entrant. On le rattrapait à la sortie, c'était facile. Et c'est pas sans rappeler que Log4j, c'était du egress, fait que si on bloquait la sortie, la fameuse vulnérabilité n'avait pas d'impact dans l'immédiat. Il laissait du temps aux équipes de patches qui n'ont pas été utilisées par tout le monde. Mais bon, bref, ces deux côtés sont très, très importants, méconnus ou mal utilisés. C'est un bel article pour nous rappeler que c'est très important de déployer ce genre de choses-là. Google abandonne son Dark Web Report sur la base que ça n'a pas de valeur, selon eux, ça n'a pas d'informations concrètes qui permet d'amener à des actions concrètes. Donc, comme il n'y a pas de valeur, Google est rapide en général à couper quand le service ne sert à rien. Il y a d'autres services, si vous voulez continuer à surveiller, des compagnies privées comme Flare qui font ce genre de choses-là, ou des services connexes comme dans Proton, par exemple, qui permettent d'offrir des informations complémentaires. Microsoft déploie un outil, ou en tout cas un tableau de bord pour la sécurité minimale de M365. Je trouve ça un peu tard d'avoir mis ça en place. Normalement, de présumer que les gens qui déploient M365 notamment savent ce qu'ils font, je pense que c'est des drôles de présomptions. On est à une époque maintenant où tout le monde fait à peu près tout et n'importe quoi. On le voit avec le hack qu'on met dans les mains de gens qui ne connaissent pas vraiment ça et les dangers que ça a. Je crois que c'est très important et c'est une bonne action que Microsoft fait, je trouve, un peu tardivement par ailleurs. Ça aurait dû être bien avant. Il y avait d'autres tableaux de bord qui étaient adaptés pour ça, mais un tableau de bord vraiment très spécialisé, M365. Pour moi, c'est la base, puis ça devrait toujours être là. Même chose que chez Google, je ne sais pas ce qui existe de ce côté-là. J'ai moins administré des environnements Google que j'ai administré des environnements M365, mais par ailleurs, si ce tableau-là est là, il permet justement d'établir des baselines de base et arrêter d'avoir des configurations par défaut qui sont ultra trop ouvertes et mettre les organisations à risque. Ça serait beaucoup mieux. Et ce qui serait une étape plus supérieure, c'est que tout soit fermé de facto et on ouvre à volonté. Donc, on prend un geste conscient d'ouvrir. Donc, on est en opt-in et non en opt-out sur les configurations. Mais c'est très contraire à la philosophie de Microsoft où tout est ouvert et on ferme. On ferme à mesure. Sur les systèmes comme Windows, ça a pris énormément de temps avant qu'ils ferment. Et encore maintenant, il y a encore beaucoup trop de services ouverts, même si c'est beaucoup moins pire que ça l'a déjà été. Palo Alto a sorti un petit rapport que la sécurité commence par comme l'hygiène personnelle, c'est l'hygiène cyber. Petit blog très, très sympathique, là, rien de bouleversant à l'intérieur de ceci, mais c'est un rappel, puis c'est pour ça que je l'utilise, puis je le mentionne dans ce podcast-ci. Puisqu'on est à la veille de Noël et du jour de l'an, on va voir nos familles, on va voir plein de gens autour de nous qui ne sont pas nécessairement experts en cybersécurité. C'est un bon moment de leur rappeler des bonnes pratiques sans être harassant, mais juste commencer à leur dire « Hey, vous changez votre mot de passe » ou des petites pratiques. Est-ce que vous avez des drôles de plugins dans Chrome ou vous avez des drôles d'applications sur votre téléphone? Juste d'amener une petite conversation sympathique, pas intrusive, mais juste pour commencer à les amener à se questionner, à adopter une meilleure hygiène numérique pour les aider à se protéger davantage face à la menace qui ne fait que s'amplifier. Puis 2026, ça va être l'asile à bien des égards de ce côté-là. Article intéressant sur le fait qu'il mentionne un titre sensationnaliste que le MFA coûte des millions et ça ne devrait pas. L'essentiel de l'article est intéressant puisqu'il calcule la friction qu'apporte l'usage du MFA en entreprise, le nombre de fois que c'est exigé et donc toute la friction qui est associée à ça, donc toute la perte de productivité. Il y avait eu une poursuite il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, aux États-Unis sur le fait que le temps de branchement n'était pas payé par certains employeurs et donc il y avait une poursuite sur le fait que ce temps-là devrait être payé essentiellement. Et je trouve que c'est une bonne idée de faire payer à l'employeur le temps de friction du démarrage de l'ordinateur et plus du branchement avec la MFA, puisque ça vient faire porter le fardeau sur l'employeur de prendre des bons moyens pour réduire la friction qui est associée à ce genre de choses-là, au lieu de faire porter tout le fardeau sur l'employé qui, lui, est essentiellement une victime de l'usage de ces technologies-là. Donc, essentiellement, c'est la friction apportée. Puis, ça l'amène à la nouvelle suivante, justement, parce qu'il parle du passkey comme étant une solution pour réduire la friction, ce qui est une bonne chose, que j'utilise d'ailleurs dans bien des occurrences, et ça réduit effectivement beaucoup la friction. Sur la MFA, je n'ai pas à attendre où tout se fait relativement vite. Et la dernière nouvelle qui parle d'un peu que le passkey n'est pas encore tout à fait mûr comme fruit, puisque c'est une technologie qui n'est pas encore fait le test de la facilité d'utilisation. ça va bien. Chez les experts, ça s'utilise bien. La plupart des experts que je connais utilisent justement des passkeys. Donc ça, ça va très bien de ce côté-là. Et ensuite, c'est l'usage dans des votes de mots de passe, le partage de ceci, comment ça se passe, comment ça se déplace, la prison dans laquelle on est quand on perd, on perd un contrôle de notre passkey, on parle d'accès à, seulement à tout, et ainsi de suite. Donc c'est de le re-raisonner. Probablement que 2026 va avoir d'autres avancées intéressantes de ce côté-là. Et je ne peux pas passer à côté du fait que je recommande à tous les gens qui sont capables de le faire d'utiliser ça. C'est beaucoup plus facile. Par ailleurs, il faut toujours avoir la clé sur soi, avoir plusieurs clés. Ça change un peu la donne sur la façon. Ça réduit la friction, ça réduit le problème de sécurité, ça réduit beaucoup de choses, ça l'améliore énormément. Mais puis ça va réduire la friction que l'article précédent mentionne. Dernière section d'hiver et insolite, il y a plusieurs nouvelles intéressantes. La première, c'est le Cloudflare Radar 2025 qui permet justement de regarder l'année 2025 avec plein de statistiques intéressantes sur la distribution des adresses IP, sur l'usage des attaquants, des bots, des choses comme ça. J'en passerai pas là-dessus, au-delà du fait que c'est intéressant, puis c'est ma curiosité de geeks qui parlent, je vous invite à aller les voir parce qu'il y a plein de petites perles là-dedans qui sont très intéressantes à voir, puis selon nos intérêts personnels dans quel on est. SoundCloud, il y a eu un certain nombre de gens qui se sont plaints sur le fait qu'ils bloquaient les VPN et ainsi de suite. Le fait, c'est qu'ils ne débloquaient pas les VPN, c'est juste qu'ils ont subi des attaques quand même assez compliquées à corriger. Et dans ces étapes-là de déni de service, de type d'attaque, les VPN ont été coupés temporairement dans certaines zones, justement pour réduire probablement la portée de l'attaque. Et tout ça est rétabli depuis, donc de ne pas trop s'énerver. C'est aussi un aspect intéressant, depuis que je commence à faire des nouvelles comme ça, de lire l'évolution dans une même semaine d'une même nouvelle, et comme celle du ministère de l'Intérieur en France, où ça a commencé par « ça y est, il y a fuite, on a appréhendé quelqu'un ». Donc, dans la même nouvelle, j'ai déjà tous ces éléments-là où un peu la portée, une analyse un peu plus sophistiquée des choses et pas de sauter dessus et déchirer ma chemise comme quoi c'est la fin du monde et ça y est, on est fini. Il n'y a plus rien de drôle. Donc, les gens sont peut-être un peu trop prompts à réagir. Donc, de juste prendre un respire. Comme on dit contre les attaques de phishing, prendre un respire avant de répondre ou avant de faire quoi que ce soit. Généralement, ça va nous amener dans un autre état mental et d'être un peu plus calme sur les différents éléments qu'ils peuvent avoir. Puis en parlant de gens qui vont s'énerver, ben il y a une nouvelle sur le fait qu'il y a un homme dans la vingtaine, semblerait, qui aurait réussi à se rendre jusque dans un avion à Heathrow, à Londres, sans aucun passeport et sans aucune carte d'embarquement. Et qui aurait réussi à piggybacker tout le long du processus jusqu'à aller s'asseoir dans l'avion. Puis finalement, quand il s'est rendu dans l'avion, ben, ils se sont rendus compte que comme l'avion était plein, ben, ils se sont rendus compte de l'existence de ce dude-là, puis il a été expulsé et escorté par la police. Par ailleurs, il a quand même passé à travers les contrôles de sécurité. Donc, du fait, il n'y a aucune problème de ce côté-là, mais c'est très drôle de voir comment un processus peut être triché et que aussi bons sont les processus, puis Heathrow, les contrôles sont particulièrement sophistiqués, là, puis on a quand même réussi à trouver une petite quelque chose par concours de circonstances, par rapidité d'avoir contrôlé, puis c'est ça, vraiment très comique, très insolite comme nouvelle, et sans conséquences graves en plus. Meta tolère de la Chine qui abuse son système de publicité beaucoup parce que ça représente, je pense, selon l'article, ça représente 16% des revenus de Meta viennent des publicités toxiques chinoises qui ne respectent pas les règles. Donc, on est dans un contexte, on a déjà parlé avec Cybercitoyen de cette chose-là, sur quoi c'est un énorme problème, mais ça revient, fait que je remets l'article-là pour qu'on se re-questionne comme personne de l'usage de ces services-là, justement, pour peut-être le fait de moins les utiliser va nous amener à forcer Meta à réagir ou à faire poser des actions concrètes pour arrêter ces fraudes-là. Donc, c'est une belle, un peu particulière. Microsoft va se débarrasser du RC4 dans son système de protection des mots de passe après tant d'années. Ça fait partie des éléments legacy de Microsoft, le fait qu'ils ne en tout cas, difficulté à couper le passage d'une technologie à l'autre. Le legacy, c'est une caractéristique de Microsoft. Il y a des compagnies comme Apple qui est à l'opposé, qui ne se gênent pas pour couper les technologies qui sont désuètes. Microsoft est complètement à l'autre bout du spectre. Ce qui nous amène à traîner des technologies comme RC4 pendant beaucoup trop longtemps. Ça doit faire 30 ans qu'on aurait dû se débarrasser de cet algo de hachage-là. Bref, ils le font maintenant. C'est bien. C'est une bonne chose. Ça serait bien qu'ils fassent ça avec beaucoup d'autres éléments, qu'ils reprennent un peu les tenants de ce qui a amené fin des années 90 à transformer un système d'exploitation qui était criblé de problèmes de sécurité, un système d'exploitation qui était dans les meilleurs en termes de sécurité. Bien, on est en train de reprendre le balancier du côté où ça semble pas vouloir se corriger. Ramène des éléments qui sont un peu plus faibles de ce côté-là. Mais bon, bref, ce geste-là va en faire régler un très, 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 très vieux problème. Et je pense que si vous avez encore du RC4 ou des composants qui fonctionnent avec ça dans vos infrastructures, ça serait peut-être le temps de rénover ou de changer dans un type de système d'exploitation. J'avais fait référence à Linux notamment, qui est plus modulaire et qui permet une plus grande vie, si on veut, de ce chemin-là. Donc, bref, il y a des réflexions technologiques à avoir que je pense que personne ne va avoir. Et donc, on fait juste vivre le statu quo et ça nous amène dans des drôles de situations. Dernière nouvelle, le chef du MI6 en Angleterre dit que ça va devenir aussi important d'être pour un job dans son secteur, là, on s'entend dans le renseignement, de connaître le python que le russe, parce que le russe étant maintenant une langue importante, tous les différents dialectes de la Chine aussi sont importants, puisque c'est des acteurs très, très influents et très puissants. Donc, pour les services de renseignement, de faire ce genre de surveillance-là. Bref, c'est très amusant de voir le Python apparaître dans le corpus qui est de maintenant demandé et très important pour ces choses-là. Je vous souhaite un excellent Noël. Le prochain enregistrement, ça va se faire après les jours de l'an. C'est ce qui va boucler l'année pour moi, pour les éléments d'actualité. Je crois que je vais continuer. J'avais soulevé un peu le doute dans un épisode précédent. Je ne savais pas ce que je vais faire avec ça. Ça m'oblige à une certaine rigueur. J'ai juste un problème de choisir le bon nombre de nouvelles, mais je pense que c'est un problème de trop grande curiosité de ma part. Il va falloir que je règle ça, que je garde un peu plus le focus, puis d'apprendre peut-être justement à plus focusser sur les éléments qui sont d'autant plus importants dans les circonstances. Mais bref, je suis en train de continuer d'amener mon regard et ça m'apporte beaucoup de lire et de me réinspirer, ça me met encore plus en relief le fait que ce que je vois sur LinkedIn, par exemple, est complètement farfelu. Et ce qui circule comme nouvelle est soit en retard, soit complètement déphasé vers le réel. Et finalement, LinkedIn n'est qu'un moteur marketing. Bref, joyeux Noël, on se revoit après.